Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Alors, nous discutons avec Thomas Mulcair parce que Jean-François Lisée est en vacances. Salut Thomas.
Salut Richard.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Donc, on a vu là, que les députés de la CAQ, du Bloc, du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur qui sont allés à Tahiti, les courageux. Est-ce que tu serais prêt, toi, à aller à Tahiti au plein mois de janvier?
Ah non, il y a des sacrifices que je suis pas prêt à faire. Non.
mais quand même, c'est quoi cette patente-là? On n'a jamais entendu parler de ça. Ça, c'est très critiqué en France aussi. Là, on se demande là, que c'est à quoi ça sert exactement. Tu sais, ce genre de voyage-là, ça sert à rien.
Non, c'est un petit peu comme les réunions du Commonwealth. J'étais justement à Sri Lanka il y a quelques années quand j'étais encore un élu fédéral. Puis c'est là pour l'ouverture de la conférence parlementaire du Commonwealth. Ah, il y avait tous les anciens pays du Royaume britannique et de l'Empire britannique qui sont aujourd'hui dans cette fameuse Commonwealth. Puis bon, ça ne sert strictement à rien. Parce que même s'ils réussissent, puis tu participes, puis tu fais adopter des résolutions et des machins, puis il y a une conférence justement de différentes sortes. J'en ai participé même à un en Russie qui est tout sauf un pays démocratique. Mais c'est un peu ça. Hein? C'est une manière de se voir. Lorsqu'il était le président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau avait participé à la création de COPPA. C'était la conférence des parlementaires des Américains. C'est ronflant comme
wow.
titre. Et leur conférence d'ouverture à laquelle j'ai assisté était à Puerto Rico. Alors, tant mieux si tu es capable de te payer un voyage à Puerto Rico pour assister à des réunions stimulantes, jouer un petit peu de golf, faire d'autres réunions stimulantes, aller dans l'océan et te baigner. Tu sais, il y a tout ça dans ces réunions-là. Et c'est très important de savoir que Caroline Saint-Hilaire, n'ayant pas été élue pour la CAQ dans Sherbrooke, ben elle va souffrir elle aussi, hein, parce qu'ils vont la nommer à un haut poste au sein justement de la francophonie à Paris. Alors je lui souhaite quand même beaucoup d'amusement dans cette fonction-là. Et c'est une femme pleine de talent et d'expérience. Il n'y a aucune raison pourquoi pas. Mais c'est du retour d'ascenseur que je pense, François Legault disait, qu'il ferait pas.
Ben oui, hein, ben oui. Une autre promesse rompue. Tom, je veux qu'on parle un peu d'histoire. Je sais que tu veux parler de Pierre Poilievre. On va en parler un peu plus tard, oui. dans quelques minutes. Oui. Mais je veux qu'on parle un peu d'histoire. C'est les 20 ans de l'intervention en Irak. Et oui. on sait que, bon, il y avait beaucoup de pression pour que le Canada participe aux côtés des États-Unis à cette intervention militaire-là. Jean Chrétien s'est tenu debout en disant « Il est hors de question que le Canada participe à ça. » Finalement, l'histoire lui a donné raison. C'était quand même un des grands moments de l'histoire du Canada. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Deux alliés importants, le Canada et la France, ont catégoriquement oui. refusé. Hein? Et c'est intéressant parce que bon, il a plein de caractéristiques comme personnage politique de l'histoire, Jean Chrétien, mais on retient pas grand-chose de son temps comme premier ministre, sauf une chose qu'il n'a pas faite, c'était d'aller en Irak. Et c'était important que le Canada ait décidé de faire ça. Puis on s'est fait blaster, on s'est fait semoncer. La France faisait partir de « old Europe hein, », selon les Américains. Oui. Et le Canada n'était pas en train de remplir ses obligations historiques et ainsi de suite. Parce qu'il y a Tony Blair qui est venu jouer au trouble fait là-dedans, premier ministre socialiste du Royaume-Uni.
Oui.
Lui, il a fait l'erreur de sa carrière. En fait, il paye encore le prix de cette erreur-là. Mais je pense que Jean Chrétien serait toujours avec justesse reconnu pour avoir eu le courage de dire non, ça c'est un party américain auquel on n'assisterait pas. Puis on n'a qu'à regarder le chaos total qui règne dans les pays qui ont été affectés suite à ça. Pas sûr que c'était une si grosse réussite que ça. Les Américains ont réussi pour la première fois à dépasser les 1 000 milliards hein, le trillion en anglais, le billion en français. Et ça, c'est une somme colossale qu'ils ont dépensée en Irak. Pourquoi faire? Ils ont ouvert la porte à l'arrivée de l'Iran parce que la majorité religieuse était plus collée à celle de l'Iran. Et donc, eux, ils ont maintenant droit de citer un peu partout dans cet autre pays. Pour les Américains, ça prouve que George W. Bush était une catastrophe sur le plan international.
Et écoute, on est allés, ils sont allés en guerre et ils ont risqué la vie de leurs jeunes soldats sur de fausses allégations, en fait, sur la base de mensonges. Et il y a un texte dans Le Devoir aujourd'hui où on dit, là, on va poursuivre, il y a un mandat d'arrestation contre Poutine pour crime de guerre, mais on se demande, ben écoutez, aller faire la guerre sur la base de mensonges, sur la base de fausses allégations, dont on sait pertinemment que c'est faux. On a créé de toutes pièces des fausses preuves pour justifier une intervention militaire. Est-ce que ce n'est pas un crime de guerre qui serait passible aussi d'un mandat d'arrestation? La question est intéressante, Tom.
Presque certainement, et ça ouvre, puisque c'est dans les nouvelles depuis le mandat d'arrestation de Poutine, plus un autre pour... Et quand même, c'est le rapt d'enfants ukrainiens qui sont envoyés en Russie, pour être adopté dans des familles russes. C'est l'horreur.
C'est incroyable.
C'est l'horreur. Mais oui, mais on se rappelle, à chaque fois qu'on lit un article là-dessus, il y a plusieurs pays qui se sont exclus. Ils n'ont jamais accepté la compétence, la juridiction de ce tribunal pénal international. Et je nomme les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Israël. Juste pour nommer quatre, comme ça, parce qu'il y en a quelques autres. Donc, l'ordre juridique international a un trou béant, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, je suis pas dedans. Même si la Russie n'est pas là-dedans, puisque l'Ukraine, qui n'avait pas encore adhéré, mais qui a fait les étapes pour adhérer, puisque c'est en Ukraine, donc, ils ont juridiction, et c'est pour ça qu'ils ont pu émettre un mandat d'arrestation contre Poutine. Poutine ne leur fera pas le plaisir, d'aller se rendre. Au contraire, il s'est rendu en Crimée et à Mariupol en fin de semaine, d'une manière de dire « je vous emmerde ».
Oui.
C'était ça son message.
Tout à fait. On revient ici au Canada. Pierre Poilievre qui veut remettre en question là, la façon dont on teste les qualifications professionnelles de plusieurs professions, c'est-à-dire médecins, infirmières, etc. Qu'est-ce que tu en penses des gens qui sont justement qui ont été formés à l'extérieur du Canada?
Ben, ce qui est intéressant avec Poilievre, c'est de faire un tracking, de suivre de près ses annonces successives. Cette idée-là, celle de cette fin de semaine, il avait presque le message identique au tout début de sa campagne à la chefferie. Hop là, le débat s'en venait au Québec, parce qu'il allait avoir un débat des chefs, des gens qui se présentaient à la chefferie au Québec. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus nuancé. Ben, il faudrait travailler avec les provinces pour veiller à ce qu'on puisse avoir la possibilité de reconnaître les compétences. Pourquoi? Ben, parce que la reconnaissance des professions, c'est un sous-ensemble de l'éducation, donc c'est de la juridiction exclusive des provinces. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que Poilievre revient là-dessus, parce que je vois ça politiquement, si je prends un tout petit peu de recul, je vois ça comme étant futé politiquement, parce que je veux faire de la peine à personne au Québec, mais c'est pas ici que la prochaine élection va se décider. Elle va se décider dans le GTA, Greater Toronto Area, la grande région de Toronto, cinquantaine de sièges. C'est là où ça va se décider. Pour l'instant, ça appartient 100% aux libéraux. 100%. C'est à eux autres. Et si Poilievre espère pouvoir casser cet œuf libéral, il faut qu'il le fasse avec des moves comme en fin de semaine, parce que le message qui est décodé par les nouveaux arrivants, c'est « Ah, ce gars-là comprend, on a beaucoup d'expérience, d'expertise, de formation, mais on ne le reconnaît pas, puis on ne nous traite pas à notre juste valeur, lui, il a compris. La subtilité constitutionnelle là-dedans est perdue. Le message est envoyé à des gens qui se sentent lésés par notre système. Donc, politiquement, c'est un bon move. Est-ce que c'est un bon move en termes de santé? Oui. Aux États-Unis, il y a un listing qui est fait régulièrement. Cette année, ça sort encore. Il y a les 20 meilleurs hôpitaux aux États-Unis. Et le numéro un pour la 7e année d'affilée, c'est le Mayo Clinic de Rochester, New York. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont ouvert les portes toutes grandes aux médecins formés à l'étranger. Ils les utilisent comme physician's assistant, donc des adjoints aux médecins. La personne fait sa formation dans la vie réelle, apprend les techniques, la terminologie, ce qui doit être appris ici, et on peut les aider à former, parce que tu peux faire une annonce comme Poilievre, mais ce sont les provinces qui tiennent les cordons de la bourse pour savoir combien de places en résidence, combien de résidents vont être formés. Donc, tu peux dire, ben on a 3000 médecins étrangers au Québec, très bien, mais tu as combien de spots pour des résidents? Ça se compte par douzaines. Tu comprends, pour les gens formés à l'extérieur. Donc, c'est excessivement difficile, c'est ardu. C'est pas toujours très juste, parce qu'effectivement, on se prive de très bons talents, mais oui. tu dois aussi protéger le public. Tu ne peux pas juste dire, ah, ben, moi, j'ai un papier de médecin de l'université XYZ dans tel coin du monde. Mais même si c'est hier, l'idée, donc, d'avoir une compétition, un concours, un truc standardisé pour valider, OK, t'as un papier de telle place, est-ce que ça vaut quelque chose? Beaucoup de Canadiens, et jeunes Canadiens et Canadiennes, vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans les universités américaines, dans les îles Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste manqué peut-être 1 ou 2% dans leurs notes. Ça prend 97% pour rentrer. Eux, ils avaient une moyenne de 95. C'est pas des tartes. Mais ils vont se faire former aux îles. Mais là, ils vont rentrer aux États-Unis. Puis là, ils essaient de rentrer au Canada. Puis la porte est fermée. Donc, on se prive quand même de talents et de gens bien formés. Et on devrait avoir plus d'ouverture.
Mais en tout cas, ça, oui, tout à fait de raison, mais ça démontre quand même que Poilievre n'a pas lu vraiment la Constitution.
Non.
Si lui pense que c'est de compétence fédérale alors que c'est de compétence provinciale.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Je m'en voudrais de ne pas répéter une bonne ligne que Jack Layton utilisait. Il dit, tu sais, si tu veux, dans une des grandes villes au Canada, l'une ou l'autre des grandes villes, si tu veux voir un médecin, parce que apparemment c'est difficile, tu veux voir un médecin, va prendre un taxi. Il y a des bonnes chances que le chauffeur, ce soit un médecin d'un autre pays.
Très bon. Écoute, la Chine serait propriétaire d'une très grande partie de nos forêts.
Oui, et c'est quelque chose qui est passé largement en dessous du radar. Je connais une des journalistes qui a travaillé là-dessus, qui est Elizabeth Thompson, extrêmement réputée et très respectée. Ça, c'est un travail monumental par un consortium de journalistes international, parce que la somme d'informations qu'il fallait digérer et absorber pour comprendre ce qui est en train de se passer avec la Chine puis la propriété des forêts, c'est un travail colossal. En gros, à travers des compagnies détenues dans des pays tiers, comme en Indonésie, par des familles richissimes, et avec des liens très établis avec le gouvernement chinois, ils sont en train d'acheter, comme ici au Québec, Résolu et tout ça, ces compagnies-là qui sont en train de se faire absorber. Pensez-y une seconde. La province de Nouvelle-Écosse, qui est une province substantielle dans l'Atlantique, la forêt qui appartient dorénavant à ces compagnies-là, affiliées, associées, contrôlées par des entités du gouvernement chinois, représente 4 fois la superficie de la Nouvelle-Écosse. Donc, wow. la forêt québécoise, et c'est absolument... Cet article-là, qui a représenté des centaines, sinon des milliers d'heures de recherche, vu que c'est un peu complexe et long, moi, j'ai vu très peu d'écho, alors que c'est énorme dans le contexte de ce qu'on a vu. En fin de semaine, on apprend quoi? Que les Américains surveillent depuis des années l'influence de la Chine au Canada. Pourquoi? Ben, le Canada, c'est son voisin le plus proche.
Ben oui.
Et c'est pour la Chine, c'est une bouchée. Alors que ce soit avec des compagnies de la haute technologie qui sont venues bouffer. Nortel est un exemple impeccable. En faillite, les gens ont perdu leur retraite et tout ça, ou une bonne partie. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez brillants pour stopper les Chinois de venir piquer les secrets de Nortel. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben, des compagnies comme Huawei, qui revendent au Canada après, puis Trudeau les protège. Alors, comment ça se fait que Trudeau protégeait Huawei, même si tous les autres pays des Five Eyes, là, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis disaient, Huawei rentre pas chez nous avec du 5G. Ben, non, Trudeau, ça a pris du temps. Finalement, Trudeau a dit non. Mais ils avaient déjà installé. Est-ce qu'ils vont l'enlever? Ça, c'est moins clair. Donc, Trudeau a une historique de ne rien faire lorsqu'il s'agit de la Chine. Et là, ça commence à être trop pour le commun des mortels. Tu sais, quand monsieur et madame, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, et le plus récent exemple, Richard, c'est la mairie de Vancouver. Ce qui est sorti jusqu'à date dans l'histoire de la mairie de Vancouver est incroyable. Et apparemment, d'après ce qu'on me dit, il y a des preuves très tangibles, très directes, complètes, qui établissent l'ingérence de la Chine, parce que qui était là-bas? C'est un ancien député du NPD, Kennedy Stewart, qui était le maire pendant 4 ans. Il voulait être réélu et il a tenu tête souvent au gouvernement chinois sur les droits de la personne, refusant des rencontres, envoyant des messages clairs que lui n'acceptait pas ce que la Chine faisait. Puis top, tout d'un coup, les gens de la communauté lui répondaient, puis hop, tout d'un coup, on apprend qu'il y a des gens qui représentaient le gouvernement. On parle au niveau du consulat à Vancouver, qui était en train de s'organiser, de faire des appels, de s'organiser contre Kennedy Stewart. Et ça, c'est sorti très clairement. Alors que Trudeau, qui sait tout ça, il a tous ces rapports-là, continue de ne rien faire, c'est parce que c'était pour lui un avantage.
Et même Tom, le SCRS dit, il y a quelques jours, là, dit que la plus grande menace à la sécurité du pays, c'est l'ingérence chinoise. Le SCRS a dit, là.
Oui. Donc, et Trudeau fait rien.
Rien.
Mais il a passé le football à David Johnston pour faire l'enquête, pour savoir s'il devrait avoir une enquête. Donc oui, on peut mettre ça comme je le fais sur le compte de son timing pour ses élections éventuelles et tout ça. Mais c'est un scandale pour le Canada. Là, Trudeau va avoir une break cette semaine. Mon oncle Joe s'en vient visiter. On va parler juste de ça pendant 48 heures. Mais tôt ou tard, il va falloir avoir des vraies réponses de la part de Trudeau. Pourquoi il n'a rien fait?
Et Tom, en terminant rapidement, tu dis souvent avec raison que l'État canadien est dysfonctionnel. On a vu ça. Il y a une famille de la grande région de Québec qui a eu toute surprise en recevant par erreur les passeports, les documents confidentiels de 5 autres personnes provenant de différentes provinces. C'est hallucinant. Par la poste.
Ben écoute, personne n'est parfait. L'erreur est humaine. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça, c'est encore le bureau des passeports parce qu'ils ont enfin ils ont trouvé la personne qui savait comment appuyer le bouton pour émettre des passeports. Donc, ils ont commencé à émettre des passeports. Les délais d'attente ont commencé à se réduire. Mais là, il les envoie à droite et à gauche, puis il envoie tes papiers confidentiels. Puis on parle de papiers confidentiels qui étaient avec ces passeports-là. Et c'est absolument incroyable. Mais de ce temps-ci, c'est la même chose. Si tu es parmi les malheureux qui perdent leur emploi, parce que bon, l'économie s'en va sur une passe un petit peu plus difficile, puis il va y avoir des pertes d'emploi, mais tu as payé toute ta vie pour ton assurance-emploi? Mais non, tu n'auras pas ton chèque parce que le gars qui savait émettre des chèques, de toute évidence, il n'est plus là. Parce qu'ils savent plus émettre un chèque à l'assurance emploi. Alors oui, on parle à très haut niveau, la Chine, l'ingérence, la guerre, machin. Mais est-ce qu'on peut aussi parler qu'un gouvernement, c'est là pour rendre des services à la population? Puis oui, Justin, elles sont superbes tes chaussettes, mais est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui sache émettre un passeport, livrer un chèque d'assurance emploi et faire les mille et une choses qui sont un gouvernement qui est là pour le monde?
Et livrer les passeports à la bonne adresse. Merci beaucoup, Tom Mulcair. À demain.
Ciao.
Salut, bye.